Dime qué son los secretos de tu
Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Clotilde Thomas. Aujourd'hui, je reçois Anne Baudard pour parler du néoplatonisme. Anne Baudard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante à l'Institut d'études politiques de Paris, donc Sciences Po, auteure de nombreux ouvrages consacrés à l'antiquité gréco-romaine, tels que Socrate et le socratisme chez Armand Collin, Qu'est-ce que la démocratie chez Vrin et Naissance de la philosophie politique aux éditions Le Pommier. Alors aujourd'hui, nous allons parler du néoplatonisme, qui est un courant philosophique de l'Antiquité tout à fait passionnant, qui a eu d'ailleurs une influence extrêmement importante, on en parlera en fin d'émission, sur les différentes traditions religieuses, notamment chrétiennes et musulmanes. Mais au début, je pense que c'est important de nous rappeler que signifie exactement ce mot de néoplatonisme.
La question est très très pertinente parce que néoplatonisme, le préfixe néo veut dire nouveau et reviviscence du platonisme. Et en fait, le néoplatonisme est une absorption des courants antiques qui existent au IIIe siècle, qui existent et qui sont le stoïcisme, l'aristotélisme, une variante du scepticisme, et il va absorber le néoplatonisme pendant à peu près 1300 ans, jusqu'au XIIIe siècle. Il va absorber ces courants et être une matrice d'interprétation, de commentaires, juifs, musulmans, chrétiens, jusqu'à, quand je dis 1300 ans, ça couvre, excusez-moi pour la datation, ça
veut jusqu'à la Renaissance.
Jusqu'à la Renaissance, jusqu'au XVIe siècle.
Parce qu'à la Renaissance, le néoplatonisme sera à la mode et la plupart des Marcille Ficin, etc., sont les grands traducteurs des philosophes néoplatonistes.
Et je crois que c'est la première chose importante qu'il faille dire quand vous me posez la question à juste titre, qu'est-ce que, c'est qu'il faut quand même remarquer la durée.
La durée est
très longue.
Et le contenu, ce n'est pas que du platonisme.
Voilà. Ce n'est pas que du platonisme, c'est une recréation du platonisme qui absorbe les philosophies qui
ont succédé à Platon. Voilà. Alors, c'est né à quel moment ?
Alors, le néoplatonisme, on le fait naître très, très, très historiquement et justement avec Plotin au IIIe siècle. Plotin est né en 205, exactement, à Assouan, ce qu'on appelle Assouan aujourd'hui, en Égypte. Et est un philosophe d'Alexandrie. Et qui a connu à Alexandrie un très grand philosophe de l'époque, qui est Ammonius Saccas, quand il le rencontre, il dit « J'ai vraiment rencontré l'homme que je cherchais depuis toujours », parce qu'il cherchait dans différentes pistes philosophiques sans être jamais satisfait jusqu'alors. Et quand il rencontre Ammonius Saccas, il a la révélation, effectivement, de ce qu'est la philosophie. Et alors, il reste 11 ans à Alexandrie, à l'école. Il étudie aussi les textes précédents, du siècle précédent, grâce à Ammonius, de Numénius, par exemple, des gens comme ça. Et petit à petit, il est très, très intéressé par cette relecture du platonisme, de l'aristotélisme et même du stoïcisme. Donc, ça fait déjà trois faisceaux, si vous voulez, qui sont présents en Égypte.
Et lui-même, est-ce qu'il était d'une famille qui appartenait à une tradition religieuse particulière ? Non, c'était ce qu'on appelait un païen.
Il est païen au sens,
oui,
au sens large
terme.
Complètement. Il est intéressé par le religieux, pas plus que ça. Il est intéressé beaucoup par le philosophique. Et Ammonius le sensibilise aux cultures persanes, aux cultures proche aussi, indienne.
Oui, parce que moi, quand j'avais fait ma thèse sur le bouddhisme, j'avais lu qu'Amenus Sakyas avait été peut-être en contact avec des bouddhistes.
Oui, c'est ce qu'on dit, et on parle aussi de l'Indomanie de Plotin. Donc,
là, donc l'Orient est présent.
Là, l'Orient est complètement présent.
C'est une synthèse,
en fait. C'est en ce sens-là que je parle à la fois d'absorption, mais de renouveau complet, de création, parce que c'est une... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais là, vous avez raison de me mettre sur ce chemin. Vous avez un dialogue extraordinaire dans la personne de Plotin et dans son œuvre entre l'Orient et l'Occident. Bon. Parce que là, au bout des 11 ans d'initiation, si vous voulez, on va les appeler comme ça, Paramenus de la philosophie grecque, à dominante grecque, il veut aller en Perse et il s'embarque dans une expédition militaire de l'empereur qui est Gordien III, je crois, à l'époque, et pour aller voir ce que sont les Perses et quelle est la culture perse. C'est quand même très intéressant. Sauf que l'empereur est assassiné en Mésopotamie et qu'il se réfugie à Antioche, parce que sinon il aurait été tué, c'est la guerre. Enfin, je passe là-dessus, mais il y a des incidences historiques considérables. Et il se réfugie à Antioche. Et ensuite, il va aller à Rome et fonder son école à Rome. Il a 40 ans.
Comment s'appelle son école ?
C'est l'école de Plotin. Enfin,
elle n'a pas un nom elle comme l'académie ou le lycée ou le portique.
C'est une excellente question. C'est une excellente question pour les spécialistes qui cherchent, qui ont cherché et qui ont la réponse. Donc je vous donne leur réponse. Ils se sont demandé si c'était une école privée complètement. Si c'était une école qui était favorisée par l'empereur, parce qu'à l'époque, alors il y a eu plusieurs empereurs sous Plotin, dont Galien, qui était un de ses amis, qui suivait ses cours, ce qui n'est pas rien, à Rome. Et donc, une pluralité d'empereurs. Il est mort sous l'empereur Claude, de mémoire. Il est mort en 270. Et on s'est demandé s'il recevait des subsides, effectivement, de l'empereur. Parce qu'à l'époque, ça c'est très très important, il y avait des chaires impériales philosophiques où on enseignait le platonisme, le stoïcisme, le scepticisme et le cynisme. Et finalement, après recherche... Et là, je fais confiance à nos amis chercheurs qui passent leur vie, vous le savez comme moi, à cela. Et la conclusion est que l'école était complètement privée. C'était dans la maison de quelqu'un, d'une femme, puisque chez Plotin, en bon platonicien, les femmes et les hommes sont égales, enfin sont à égalité, ou doivent être considérées à égalité. Et donc l'école est complètement privée. Et c'est une école qui attirait de partout.
Qui a eu un grand rayonnement.
Un très grand rayonnement, l'école de Plotin.
Et est-ce qu'il y a eu d'autres créations d'écoles ? Par exemple, est-ce qu'ensuite, il est revenu enseigner à Alexandrie ?
Du tout.
Il est toujours resté à Rome ? Il a vécu à Rome jusqu'à la fin de ses jours ?
Oui, il est resté à Rome pour des raisons, à mon avis, historiques et politiques de guerre, sans doute, ou de différents de cet ordre-là qui ne sont pas de son fait à lui. Il est resté implanté à Rome, il y est mort, il y fut malade, et il est mort en Campanie, enfin, à quelques kilomètres de Rome. Voilà. Donc là, il y a une fixité, effectivement, chez Plotin. Mais les disciples de Plotin vont être, comme Amélius, qui est un disciple extraordinaire et fervent, comme disent les textes de Porphyre. Enfin, la vie de Plotin par Porphyre.
On connaît surtout Plotin par Porphyre. Porphyre. Voilà, un des disciples.
Oui, un des disciples importants, mais qui a peut-être gauchi la doctrine de Plotin. Ça, c'est aussi un débat. Mais on sait en effet qu'il est resté à Rome, mais qu'Amélius lui est reparti à Antioche, enfin en Syrie.
Alors, etc. Autre question, oui. Puisqu'il a vécu longtemps en Égypte, notamment à Alexandrie, puisqu'il était à Antioche, puisqu'il était à Rome, partout il y avait des juifs et des chrétiens, et des gnostiques. Mmh. Est-ce qu'il a été influencé aussi par ces courants-là, ou il n'a pas beaucoup été en contact avec eux ?
Il a été en contact avec les gnostiques, il écrit un traité entier des Énéades, contre les gnostiques, qui pour lui sont les chrétiens.
Ah oui, donc il était avec des chrétiens gnostiques.
Voilà, okay. Il les assimile. Il les assimile parfois avec justesse et parfois à tort. Donc il en fait, si vous voulez, une rubrique, j'allais dire, généralisante. Et ça se discute ensuite. Mais de son point de vue, c'est cela. Pourquoi les appelle-t-il chrétiens ? C'est presque un adjectif, si vous voulez, qui est au-delà de ce que vous vouliez avoir comme réponse. Être chrétien, c'est considérer que Dieu est hors du monde, que Dieu est absolument caché, qu'il ne se dévoile pas. Et ça, pour Plotin, c'est l'horreur. Enfin, excusez-moi de l'expression. Il a une conception de Dieu qui se dévoile, et qui se dévoile dans le monde aussi. Donc, il y a toute une philosophie du dévoilement successif de Dieu qu'il appelle l'un.
Ben parlons-en, parce que c'est justement au cœur de sa pensée.
Oui.
Expliquez-moi, qu'est-ce que l'un pour lui ?
Donc l'un, c'est le premier, C'est
le principe premier.
C'est le principe premier, le N, on ne peut rien en dire. Vous savez qu'on ne peut rien en dire. En dire, c'est déjà faire quelque chose de deux. Enfin, c'est dire, je ne sais pas si on dit l'un et Dieu, on dit déjà A et B, d'une certaine façon. Mais en même temps, je pense que c'est une reconduction complètement personnelle de Plotin, du thème platonicien du bien qui est au-delà de l'essence
de la République 6,
le bien qui est indicible et qui n'est pas essence, qui est suressentiel.
Au-delà
de l'être, exactement, que Platon appelle l'anipothétique, l'inconditionné. Et alors, Plotin est très marqué par le Parménide, et de ce point de vue-là, c'est un des meilleurs commentateurs du Parménide de Platon, qui est un ouvrage d'une difficulté que l'on connaît, nous. Et la première hypothèse du Parménide, quelque chose qui l'a énormément marqué, c'est-à-dire, on ne peut rien dire de l'un, on le connaît par ses expressions. Ça, pour aller de haut en bas, bien. Mais on peut aller aussi de bas en haut. Et s'unir à l'un, ça a toujours été, effectivement, j'allais dire, le but de la vie de Plotin. Et à la fin de la vie de Plotin par Porphyre, Porphyre nous dit carrément, avec une jalousie manifeste dans le texte, il a beaucoup de chance, lui, quatre fois, il s'est uni avec le premier, avec le
donc
principe.
Donc il a fait des expériences mystiques type extatique.
Extatique, c'est cela.
Comme Socrate un petit peu.
Oh, Socrate pour moi, enfin... Socrate, parlons-en tous les deux, nous le connaissons bien. Je ne sais pas si je dirais de Socrate qui pratique l'extase, moi. Pas au sens plotinien.
En tout cas, il y a des récits de Platon dans lesquels il montre des extases de Socrate qui restent pendant des heures immobiles et qui dit après « mon daimon me parlait ».
C'est vrai.
Quand même étonnant.
Alors c'est l'extase, je dirais, physique à ce moment-là. Et là, dans le cadre de Plotin, c'est vraiment une extase
amoureuse.
Ah oui, complètement.
Donc, Plotin, c'est plus érotique. On est plus dans l'extase des monothéistes qu'on connaîtra ensuite avec les grands mystiques juifs, chrétiens, musulmans, de ceux qui éprouvent la divinité et qui en ressortent transformés.
Dans leur chair, qui est le lieu du mal. Qui est le lieu du mal. La chair, c'est le lieu du mal.
Pas pour Plotin. Donc il est dans un dualisme.
Non, il n'y a pas de dualisme. Mais il n'y a pas de dualisme, justement. Il n'y a pas de dualisme pour moi chez Platon, mais ça, c'est un autre débat. Il n'y en a pas non plus chez Plotin, et surtout pas chez Plotin, parce que, si vous voulez, vous avez une double polarité dans l'être qui le fait tendre vers le haut, vers le bas. Il faut tout mettre en œuvre pour ne pas tendre vers le bas, mais ce n'est pas en termes dualistiques. C'est en termes, si vous voulez, de double polarité. C'est pas de l'ordre du dualisme de nature différente.
Oui, tout vient de... Il n'y a pas un mauvais dieu qui aurait créé la matière.
Du tout. Ça, c'est le manichéisme.
Le manichéisme ou le gnosticisme, en grande partie.
Voilà. Soit c'était aussi une des raisons...
Donc, le corps est bon, mais quand même, l'âme est en exil dans le corps.
Oui, oui. Il commence quand même... Enfin, Porphyre, dans la vie de Plotin, commence par dire que Plotin avait honte d'être dans un corps. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais réussi à avoir un portrait de lui. Il a fallu utiliser des ruses pas possibles parce qu'Amélius avait un ami qui s'appelait Carterius qui lui a fait suivre les cours de Plotin. Il s'est rendu compte de rien. Il était très bon dessinateur et pendant les cours, Carterius a dessiné les traits de Plotin. Mais si Plotin l'avait su, ça aurait été vraiment un très grand affront à sa personnalité, etc.
Et alors pour lui, donc, le sens de la vie humaine, c'était que l'âme ou l'esprit, il parlait du nous, quel était
la deuxième hypostase,
voilà, puisse rejoindre, s'unir à l'un.
À l'un, oui. C'est-à-dire, il y a dans le système de Plotin, dans un langage un peu technique, trois hypostases, trois substances, enfin, entre guillemets l'expression, qui sont l'âme universelle, l'âme du monde, par exemple, et l'âme éternelle, pas l'âme individuelle, l'âme éternelle ou l'âme universelle du monde. Le nous, l'intelligence, l'esprit selon les traducteurs, ou l'intellect selon les traducteurs, et le premier, l'un. Bon. Et effectivement, on a une philosophie de la procession et de la conversion. Mouvement de descente et mouvement de remontée, ou mouvement de remontée et mouvement de redescente. Oui. Et toute la philosophie de Plotin est ainsi. Et par exemple, je vais prendre un petit exemple qui me semble simple. Quand il analyse les rapports action-contemplation pour peut-être démontrer qu'il n'est pas dualiste, il va définir l'action comme l'ombre de l'action. C'est pas l'opposé de l'action, c'est l'ombre de... Donc, image dégradée de... Donc, le corps... par rapport à notre discussion précédente, le corps sera une image dégradée de l'âme individuelle. L'âme individuelle est une image dégradée de l'âme éternelle. L'âme éternelle participe du nous, et le nous participe de l'un. Oui. Donc on n'est pas dans un dualisme ontologique.
Oui, on est dans une... Progressivement, plus les choses se manifestent, plus elles perdent de leur substance première. C'est ça, oui. Et donc en qualité, d'une certaine manière,
tout à fait.
En dignité.
Votre expression est tout à fait plotinienne, elle est intéressante, parce qu'il emploie, enfin en grec c'est exactement littéral, il parlera d'amoindrissement d'être à ce moment-là, pour bien l'image de la dégradation, si vous voulez, pas brutale, mais
oui,
progressive.
Oui, il ne faut pas y mettre une connotation voilà. morale.
Du tout.
Il faut comprendre que c'est dans l'ordre ontologique en fait.
Oui, mais il n'y a pas de dualisme ontologique.
Voilà, tout à fait. Mais plus l'un se manifeste, plus effectivement il est grossier. C'est-à-dire que plus il est dans la matière, présent dans la matière, plus il faut un effort pour le retrouver.
Et Plotin a vécu toute sa vie tendu par cet effort. Et comme tous les grands mystiques, peu à peu l'effort disparaît au profit d'une espèce de seconde nature qu'il s'est constituée. Et Porphyre en était très jaloux.
Lilian Var, bonjour.
Bonjour. Oui, alors vous parlez de cette dégradation, si j'ose dire, de l'être à mesure qu'il descend. Et en même temps, vous avez bien expliqué tout à l'heure que ce n'est pas du tout, comme dans le manichéisme, l'idée que la matière, c'est ce qu'il faut rejeter, ce qui est le mal, etc. Parce qu'il y a peut-être une dégradation, mais néanmoins, la remontée se fait, si j'ai bien compris, par une regradation, si je puis dire, c'est-à-dire par une remontée. Et il faut partir, finalement, de ce qui est donné, de ce qui est dévoilé, de la beauté, par exemple, enfin, de ce qui est révélé, même si c'est un moindre être, pour remonter jusqu'à l'un, si je ne me trompe pas. Et c'est peut-être la grande différence avec, justement, les doctrines du dualisme, qui rejettent, au fond, la matière. Là, on fait une remontée de ce qui est le moindre être
vers l'un. De ce qui est manifesté.
De ce qui est manifesté, absolument.
Philosophie du dévoilement, philosophie de la, vous avez dit révélée. Le mot révélation est lourd, effectivement, dans les monothéismes. Et là, c'est effectivement une révélation aussi. C'est-à-dire, le monde révèle la beauté du monde. Je crois que c'est dans les textes de Plotin que j'ai vu le plus beau texte sur la beauté du cosmos, qui atteste le fait qu'il y ait...
un principe premier, une source.
Au principe, effectivement, la beauté pure. La source pure
de
la beauté.
Vous avez en tête
je dirais le livre 3 des Énéades, mais 3 entre 8 et 9 des Énéades, de mémoire. Mais c'est un très très beau texte sur la beauté du monde, qui est à mettre en parallélisme avec l'épinomiste, dont on ne sait pas exactement s'il fut de Platon ou pas de Platon, mais enfin, qui correspond aussi à un certain platonisme antique, là, cette fois très antique, et où justement le monde était vu comme un cryptogramme d'une beauté insigne, j'allais dire, à la révélation duquel on pouvait passer sa vie entière à le déchiffrer. C'est-à-dire, le monde non seulement était écrit en langage mathématique, comme l'avait dit déjà Pythagore, mais il était en plus écrit en langage théologique. Vous voyez ? Et ça, je crois que de ce point de vue-là, Plotin... Enfin, si vous me demandiez, vous ne me le demandez pas, mais je vais faire les questions et les réponses. Par rapport à Platon, est un mystique avéré et constant.
Vous êtes sur France Culture dans Les Racines du Ciel en compagnie d'Anne Baudard et nous parlons du néoplatonisme. Lélie Anvar.
Oui, vous avez parlé de côté mystique, voire extatique, de Plotin à la fois dans la vie dans sa vie qui a été donc écrite par son disciple Porphyre et aussi dans les Énéades. Effectivement, il y a ce que j'appellerais des moments de fulgurance qui sont vraiment qui ressemblent à de la poésie mystique la plus pure qu'on rencontrera le long des siècles. Et donc là, le texte que nous avons choisi ensemble, Anne Baudard, c'est un texte qui démarre sur l'idée que justement cette remontée du moindre être, qu'il appelle d'ailleurs le mal n'ayant pas évidemment ici une connotation morale, vers l'un est provoqué, enfin est comparé plutôt à une danse. Une danse qui a un caractère extatique et qui enivre celui qui est dans cette expérience de la contemplation et de l'ascension, peut-être plus qu'encore que de remonter. Dans cette danse, on contemple la source de vie, la source de l'intelligence, le principe de l'être, la cause du bien, la racine de l'âme. Toutes ces choses ne s'écoulent pas de lui en amoindrissant sa substance, car il n'est pas une masse corporelle, sinon ses produits seraient périssables. Or, ils sont éternels parce que leur principe reste identique à lui-même. Ils ne se partagent pas entre eux, mais ils restent entiers. C'est pourquoi ces produits aussi sont permanents, comme la lumière qui subsiste tant que le soleil subsiste. Car il n'y a pas de coupure entre lui et nous n'en sommes pas séparés, quand bien même la nature corporelle, en s'insinuant, nous attire à elle. Il nous est donné par lui de vivre et de nous conserver, mais il ne se retire pas après ses dons. Il continue à fournir à nos besoins tant qu'il sera ce qu'il est. Ou plutôt, ici même, nous nous penchons vers lui et vers notre bien. Notre éloignement de lui n'est pas un éloignement de lieu, mais seulement un amoindrissement d'être. Ici même, l'âme se repose du mal en se retirant dans une région purifiée du mal. Ici même, elle connaît par l'intelligence et elle atteint l'impassibilité. Ici même est la vie véritable. La vie actuelle, quand elle est sans Dieu, n'est qu'une trace ou image de la vie de là-bas. Cette vie idéale, c'est l'acte de l'intelligence. Et par cet acte, elle engendre des dieux en restant immobile grâce à son contact avec l'un. Elle engendre la beauté, la justice et la vertu, l'âme fécondée par Dieu et grosse de tous ses biens. Et cette fécondation est pour elle le commencement et la fin. Le commencement parce qu'elle est issue de cette région lointaine, la fin parce que le bien est là-bas et que, arrivée là-bas, elle redevient ce qu'elle était. Ici, c'est la chute, l'exil, la perte des ailes, mais ce qui montre que le bien est là-bas, c'est l'amour consubstantiel à l'âme, selon la fable de l'union d'Eros avec les âmes, que l'on voit dans les peintures et les récits. Puisque l'âme est différente de Dieu, mais qu'elle vient de lui, elle l'aime nécessairement. Si elle est là-bas, elle l'aime d'un amour céleste.
Anne Baudard, un petit commentaire sur ce texte.
C'est difficile de commenter un texte d'une beauté de ce type. Ce qui me frappe beaucoup, c'est presque un certain optimisme de l'auteur, même si le mot « mal » est répété à plusieurs reprises. Il y a un optimisme, pas au sens vulgaire banal évidemment du terme optimisme, mais je ne sais pas quel terme employer, une foi positive, si vous voulez, dans la capacité de l'homme de développer en lui tous les germes, effectivement, qui lui permettront de retrouver son origine première. La fin et le commencement chez Plotin coïncident. Oui. Donc, comme chez jadis Platon ou Socrate, nous venons d'ailleurs, nous retournons à ailleurs, mais nous avons les moyens d'y retourner. Bon, il faut simplement comprendre qu'on a les moyens d'y retourner et regarder dans la bonne direction. Donc, quand vous dites c'est pas un mal moral, c'est juste de dire que c'est pas un mal moral. Le mal, c'est l'éloignement du principe, du premier. C'est ne plus savoir que nous venons de lui et que nous devons retourner à lui. C'est l'oublier. Le mal, c'est effectivement...
C'est l'ignorance.
C'est l'ignorance, c'est la perte de mémoire. C'est effectivement tous les degrés de l'ignorance, dont une certaine amnésie.
Mais là, on voit à quel point Plotin est vraiment au carrefour entre la philosophie grecque et la pensée orientale.
Oui.
Puisqu'on retrouve la même idée dans l'hindouisme et le bouddhisme, que le mal, c'est l'ignorance.
Et dans le zoroastrisme, persan, absolument. Oui. Avec toute cette prégnance de la lumière, enfin, comme métaphore de l'un, du bien, et de la vérité, en fait.
Alors, on va essayer d'élargir un tout petit peu le sujet. Donc, Plotin est le fondateur du néoplatonisme. On comprend bien que c'est un mystique. C'est à la fois un philosophe et un mystique qui vit des expériences extrêmement fortes, qui imprègnent toute sa philosophie. Il a écrit. Alors, est-ce que les Énéades, ça a été écrit par lui ou c'est des notes d'élèves ?
Alors, sur l'écriture, c'est une question complexe. L'écriture de Plotin, pendant 10 ans à Rome... Au dire d'Amélius, au dire de Plotin, de Porphyre et d'Amélius, il n'aurait rien écrit. Il se serait contenté pendant 10 ans. Il enseignait en tout 26 ans à Rome. D'accord ? Donc pendant 10 ans, il se serait contenté avec beaucoup de guillemets, de commenter Ammonius, par exemple, avec ses disciples, ses étudiants, les gens de passage. Un mot sur les gens qui venaient l'écouter, parce que c'est important aussi pour comprendre... Pour répondre à votre question, dans les gens qui venaient l'écouter, il y avait ce que Porphyre appelle les élotailles, c'est-à-dire les disciples fervents. Et il y avait les autres, les acroautailles, ceux qui écoutaient, sans que ça transforme nécessairement leur vie. Bon, c'est une distinction qu'on retrouve certainement dans d'autres cultures, etc. Donc, ceux qui ont été disciples fervents. C'est le cas d'Amélius. Ce n'est pas le cas de Porphyre, d'une certaine façon, puisque Porphyre a été que 6 ans l'auditeur de Plotin. Amélius, 25 ans. Bien. Retour à l'écriture. Donc, pendant 10 ans, il n'écrit pas, il commente. Le néoplatonisme, au départ, est un, j'allais dire, comme la philosophie d'Épictète, le stoïcisme romain, est une philosophie du commentaire. Commentaire oral. Il avait des notes personnelles, Plotin, mais il ne les communiquait pas. Et sur les instances, comme c'est souvent le cas, des disciples fervents, qui lui ont demandé d'écrire, il a rédigé, il est dit qu'il écrivait ça d'une façon, si vous voulez, pressée, un peu, comment je dirais ça, une écriture qui est très liée à l'expérience qu'il décrit, etc. Et il va rédiger, effectivement, les textes que nous avons, les traités que nous avons, dans un désordre assez extraordinaire. Et on doit à Porphyre, quand on dit qu'il est le biographe, effectivement, de Plotin, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ordonné, sur la demande de Plotin, qui, avant de mourir, lui a demandé de faire ça, il a ordonné donc l'œuvre de Plotin, l'ordre des traités, et fait finalement les fameuses 6 grandes Énéades pour répondre au nombre parfait, qui est 6 multiplié par 9, qui donne 54 traités, etc. Donc il y a une écriture, à la différence d'un Socrate, par exemple. Il y a une écriture, il y a des textes, de la facture que l'on connaît, les uns sont plus difficiles que d'autres, les uns sont plus expérimentaux, racontent une plus grande expérience que d'autres, etc. Oui, il y a une écriture.
Et pourquoi on les appelle les Énéades ?
Les Énéades, parce que c'est
profane.
Les neuvaines, certains disent c'est les neuvaines de Plotin, c'est-à-dire, c'est des, si vous voulez, c'est, non, ce n'est pas une question inintéressante. 6 fois 9, ça fait bien 54, c'est ça ?
Oui. Moi, j'en sais rien. Moi,
oui, tout à fait.
Fait longtemps que je compte plus.
Donc, chaque Énéade a 9 traités. Chaque Énéade a 9 traités. Vous entrez là avec votre question dans le symbolisme numérologique, qui est très complexe et qui obéit, si vous voulez, à un schème, j'allais dire, néo-pythagoricien, qui prévaut aussi, parce qu'Ammonius était très marqué par le pythagorisme à Alexandrie. Il y a tout un cercle néo-pythagoricien à Alexandrie. Donc, ce n'est pas du tout anodin qu'il y ait 6 fois 9 dans le...
En tout cas, Énéade, ça vient de 9, c'est ça ?
Énéade, c'est 9, oui, 9. En grec, oui. Énéade, c'est 9, oui. Tout à fait, c'est le chiffre 9.
Alors, parlons maintenant des disciples, c'est-à-dire de ceux qui ont prolongé l'œuvre de Plotin dans cette synthèse de l'Antiquité gréco-romaine. Quelles sont les principales figures et qu'est-ce qu'ils ont apporté de nouveau ou de différent par rapport à Plotin? On connaît les noms de Jean Blic, par exemple.
Oui, alors ça, je veux dire, il faudrait beaucoup plus de temps peut-être qu'on en a, mais on peut toujours répondre aux questions sans s'esquiver.
Plus important, qu'est-ce qui vous apparaît comme figure les plus importantes?
Elles sont toutes importantes. Jean Blic est une figure...
En parlant de Jean Blic, parce Jean que Blic je sais qu'il est particulièrement intéressant.
Oui, il est fabuleusement intéressant. Moi, je connais particulièrement bien sa vie de Pythagore, par exemple, qui nous renseigne en effet sur un personnage très orientalisé. Alors, à la différence de Plotin, Jean Blic, vous me demandez point de comparaison possible. À la différence de Plotin, Plotin n'a pas voulu se faire initier au mystère à ma connaissance. Bon. Alors que Jean Blic est très théurgie, lui. Et il se fait initier au mystère, etc. Il est beaucoup plus orientalisé, si vous voulez, si je peux dire ça de façon vulgaire, que Plotin.
Alors, expliquez un petit peu pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça. Qu'est-ce que c'est que l'initiation au mystère dans l'Empire romain?
L'initiation au mystère, que ce soit en... Jean Blic est syrien, de mémoire, et dans l'Empire romain, si vous voulez, coexistent plusieurs religions. Alors, il y a peut-être deux conceptions de la sagesse, ésotérique et la sagesse exotérique. Donc, quand on parle des mystères, les mystères sont d'origine grecque, gréco-romaine ici, c'est toujours des mystères ésotériques, c'est-à-dire réservés à une classe d'initiés qui vont eux-mêmes s'initier au mystère ou essayer de s'initier, car on ne réussit pas toujours. Et chez Jean Blic, ce qui me paraîtrait aussi prévaloir chez lui, c'est l'importance du pythagorisme. Parce que cette vieille idée de l'initiation, du caractère secret...
Mais il faut dire que c'est un rituel. Il y a tout un rituel noir, etc. Oui. D'ailleurs, la franc-maçonnerie a repris en partie, s'est inspirée de ces rituels-là. C'est tout un rite initiatique.
Un rite initiatique intellectuel, un rite initiatique pour la vie ordinaire... pour le coucher, j'allais dire pour le dormir, pour le manger, pour le vêtir, etc. Bon. Donc Jean Blic, lui, est beaucoup plus ouvert sur ces questions-là, plus attiré par les mystères ésotériques que Plotin ne l'était, parce qu'on a des textes qui montrent que Plotin était presque contre cela. Donc il y a un désir je ne sais pas s'il y a un substantif pour exotérique, enfin d'une philosophie de type exotérique réelle, chez Plotin et parfois chez Jean Blic, on a la coexistence des deux aspects, ésotérique et exotérique. Donc, ce sera une différence qui me semble intéressante. Donc, Jean Blic est un disciple de Porphyre. Donc, vous avez une école intéressante là à cibler. Dans les grands noms de néoplatoniciens, Proclus, également, qui est un nom important que je connais moins, je dois dire moi personnellement. Mais qui est quand même qui est une figure énorme, et Damasius. Bon, ça, c'est le néoplatonisme pur et dur qui va, si vous voulez, qui se tient du 3e au 6e siècle. Donc, c'est déjà 300 ans. Est-ce qu'on réalise ça, nous, aujourd'hui, quand les courants de pensée, quand il y en a un, sont d'une éphémérité soit on s'en réjouit, soit on s'en désole, selon l'affection qu'on a pour ces courants de pensée. Mais là, c'est quand même, moi je trouve ça énorme. Si vous voulez, c'est des courants qui, techniquement, se sont commentés les uns les autres en apportant chacun, effectivement, des corrections, des discussions de commentaires, etc. Mais toujours au sein même de la même école. Et alors, je crois que ce qui frappe quand même le point commun de tous... c'est l'absorption des courants que je mentionnais en ouverture tout à l'heure. On trouve des traces de stoïcisme, on trouve des traces de plotinisme, là maintenant, puisque Plotin n'est plus, on trouve des traces de platonisme revu et corrigé par Plotin, des traces de stoïcisme, etc.
Donc chacun apporte effectivement, on est toujours dans cette idée d'une synthèse de la philosophie grecque, mais avec à chaque fois une coloration différente en fonction de la personnalité de chaque philosophe. Oui. Et est-ce qu'on va vers de plus en plus de mystique et d'expériences mystiques ou de pratiques, de rituels presque vers une forme d'initiation ou de religion?
Peut-être une mystique plus intellectualisée en gradation, je dirais. Les textes de Damasius sont d'une difficulté réelle. Damasius est très intéressé par, commente les éléments d'Euclide, par exemple, d'une façon éblouissante, donc beaucoup plus déductif. Beaucoup plus, je dirais que la mystique dans laquelle on se reconnaît, nous, aujourd'hui, peut-être plus, peut-être ai-je tort de dire cela, c'est peut-être plus la mystique plotinienne.
Vous êtes toujours sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie d'Anne Baudard pour parler du néoplatonisme. Anne Baudard, moi, il y a une phrase de Plotin qui m'avait beaucoup marqué et que j'avais noté quelque part. Je crois que c'est « on devient ce que notre regard contemple ». Vous pourriez nous en faire une petite exégèse.
Oui, c'est un thème très important, pas seulement une phrase, mais un thème plotinien très important dont on n'a pas parlé précédemment et qui montre que dans le sujet qui contemple, justement, il est transformé lui-même par la contemplation qu'il vit et qu'il expérimente. Tout le monde peut comprendre cela. Il peut être transformé au point de devenir ce qu'il contemple. Et à ce moment-là, la distinction sujet regardant et objet regardé n'existe plus. Et c'est ce qu'un mauvais mot, parce que rend-on justement par ce mot-là l'expérience qu'on décrit, le mot fusion, si vous voulez, qui s'opère. Et il y a de nombreux textes comme cela chez Plotin, pas simplement un, il y en a de nombreux où justement, même dans la perception de l'un dont on parlait tout à l'heure, il faut devenir l'un. Et l'extase, c'est que l'on devient, alors je dis peut-être pas en totalité, mais on devient quelque chose, entre guillemets, de l'un. La distanciation, moi, l'un, disparaît.
C'est tout à fait ce que l'Inde exprime à travers la notion de non-dualité. Il n'y a plus de dualité, effectivement, oui, entre l'Atman, l'âme individuelle, oui, et le Brahman, le tout, lorsqu'il y a, par la vie spirituelle, une adéquation entre les deux et que l'un contemple la partie, rejoint le tout finalement, à travers la vie mystique ou la vie contemplative.
C'est extrêmement intéressant ça. Mais c'est...
Ce qui montre à quel point Plotin est vraiment carrefour entre l'Orient et l'Occident. Oui. On le disait au début de l'émission, mais c'est à tout point de vue.
Oui. Et puisque vous parlez de l'Inde, est-ce que il y avait aussi des pratiques ascétiques, par exemple, comme c'était le cas chez les stoïciens, etc., dans l'école de Plotin, ou c'était juste une école philosophique? Il y avait des exercices spirituels ascétiques.
Il y avait des exercices spirituels, il y avait un art de vivre en détachement le plus grand possible par rapport aux biens matériels, par rapport dans la façon de manger, dans la façon de se nourrir, etc.
Est-ce qu'ils étaient végétariens, par exemple?
J'aurais tendance à dire sans doute, mais
à vérifier.
À vérifier, oui.
Et la sexualité? Est-ce qu'ils étaient mariés?
La sexualité Plotin, non, mais Porphyre, qui a toute sa vie combattu le mariage en considérant que c'était vraiment pas quelque chose qu'il ne fallait pas,
dans lequel
il ne fallait, il fallait pas se reproduire, etc., a épousé Marcella à la fin de sa vie, pas à la fin de sa vie tout à fait, mais enfin, il n'était pas très jeune, et elle était mère de cet enfant. Et il a fait des textes et des textes pour justifier le bien fondé de son mariage avec Marcella, dans un texte qui est la lettre à Marcella, qui est extraordinaire, parce qu'il est en faute. Il se sent fautif.
Par rapport à sa théorie.
Ah ben oui, par rapport à la doctrine.
Donc il y avait quand même, comme le dit Lélie, toute une doctrine ascétique de maîtrise des passions, de la sexualité
corps,
vécue comme quelque chose de plutôt négatif ou inutile.
Oui.
Enfin, on est...
perte de temps, perte de substance, en tous les sens figurés.
D'où on peut comprendre dès lors aussi pourquoi il y a eu une affinité assez forte entre le christianisme et le néoplatonisme, parce qu'il y a beaucoup de points communs.
Oui, enfin, on peut le comprendre à certains égards, mais quand vous dites ascétique ou ascèse, askésis en grec, c'est l'exercice. Donc on est en plein dans la notion que Ado met en valeur dans toute sa vie, a mis en valeur toute sa vie, c'est-à-dire que la philosophie plotinienne, c'est pour moi l'exemple type d'un exercice spirituel d'un bout à l'autre, pour les praticiens de cette philosophie. Bon, mais on pourrait dire ça de Pythagore, on pourrait dire ça de beaucoup de philosophes, j'imagine, orientaux, occidentaux. C'est-à-dire, ils ne pensent pas à la philosophie sans un art de vivre qui y corresponde. Ce n'est pas une conception de philosophie, simplement intellectuelle. C'est pour ça que je pense que peut-être le néoplatonisme avançant va s'intellectualiser davantage. Voyez.
Mais il y aura, ce que je voulais dire... quand même un lien avec ce qu'on va trouver chez les moines chrétiens, par exemple. Je pense à la naissance du monachisme, c'est-à-dire un certain mépris du corps. Tout est focalisé sur l'âme, sur le désir d'atteindre la vie contemplative, en s'isolant un peu du monde, en étant dans une pratique, une ascèse, une discipline, des exercices. C'est là qu'il y a une parenté assez forte.
Une parenté forte qu'on a chez Socrate, c'est l'éloge, ce que j'appelle moi, de la kénose. Il faut se vider de tout l'inessentiel. Quel qu'il soit, cet inessentiel. Donc le sexe fait partie de cet inessentiel, ou la sexualité, et s'en vider pour aller à l'essentiel. Voyez.
Alors vous avez dit au début justement que... On est étonné d'ailleurs que Plotin ait eu un rejet du christianisme. Alors c'est peut-être parce qu'il avait une approche du christianisme qui était plutôt par les gnostiques. Comment se fait-il que justement le christianisme se soit... et ressaisi Plotin et l'est intégré à la pensée spirituelle justement des grands penseurs chrétiens. Comment cette synthèse s'est faite? Par qui et comment ça se fait?
Parce que je crois que le christianisme dont vous parlez là, le christianisme de la postérité plotinienne, a interprété Plotin dans le sens d'un néo-platonisme au sens strict du terme, c'est-à-dire d'une création du platonisme, mais à partir du platonisme. Ce n'est pas ex nihilo, c'est à partir du platonisme. Et il y a un Platon qui a écrit le Phédon, lequel Platon est orphico-pythagoricien dans ce dialogue, et jette l'anathème sur le corps. Bon, en un certain sens. Moi, anathème, il est pas platonicien, mais c'est ça. C'est-à-dire, c'est le corps tombeau, c'est le corps sépulcre, c'est le Phèdre reprendra le thème de la coquille à laquelle je suis attaché, dont il faut que je me détache. Bon. Tout Platon n'est pas là. Le Platon du banquet ne véhicule pas cette doctrine. Donc on fait des coupes. Plotin avait honte d'être dans un corps. La matérialité du corps était un poids dont il fallait se libérer. Le christianisme est une religion de l'incarnation. Donc devrait valoriser le corps, ou un certain aspect du corps, un corps transfiguré sans doute, voyez, et non pas le mépriser. Mais il y a eu des tendances dans le christianisme où, en effet, on a véhiculé cette tradition orphico-pythagoro-plotinienne, etc., et qui est reprise par...
Et c'est surtout Saint-Augustin qui va être la charnière et qui va, à la suite de certains autres pères de l'Église, avoir ce soupçon, ce pessimisme par rapport au corps, par rapport à la matière.
Oui. Saint-Augustin est un bon exemple parce qu'il a tellement vécu au niveau du corps, il sait le prix et l'excellence de la sexualité dont il veut se détacher. Et il demande à Dieu, quand Dieu l'a appelé, pas tout de suite, laissez-moi encore un peu de temps.
Oui, de manière générale, c'est assez frappant je ne sais pas comment vous l'expliquer, que finalement les grandes spiritualités monothéistes, les trois monothéismes, étaient à ce point imprégnés, impressionnés, fascinés par Plotin, et les repris, alors avec plus ou moins d'exactitude peut-être, sur plus ou moins de fidélité à la doctrine de départ, mais néanmoins, c'est vrai que c'est vraiment une pensée qui court, peut-être parce que les monothéismes ont aimé chez Plotin cette remontée vers l'un. Je n'arrive pas tout à fait toujours à m'expliquer pourquoi telle fascination et une telle
si
prégnance.
Si je peux me permettre, vous direz si vous êtes d'accord. Moi, je pensais simplement qu'ils ont été très étonnés de voir que quelqu'un qui n'avait pas reçu une révélation à travers les prophètes, la Bible, etc., dise des choses extrêmement similaires à ce que dit la révélation biblique.
Oui, c'est ça.
À savoir qu'effectivement, le but de la vie humaine, c'est de s'unir par la vie contemplative, au principe créateur, qui lui n'appelle pas Dieu, Plotin l'appelle l'un. Mais ça ressemble beaucoup quand même à la mystique en germe dans le judaïsme et dans le christianisme, qui est cette idée que l'homme est sur terre pour retrouver sa source divine.
Oui. C'est tout à fait, vous avez dit similaire, c'est le mot. En grec, nous avons deux termes, l'homoiosis et la sougeneia. Et la sougeneia, c'est la parenté naturelle. L'homoiosis, c'est... La volonté que l'homme a de retrouver sa source première. Donc il y a au départ une volonté et un effort. J'en parlais tout à l'heure. Et Platon dit par exemple, il faut fuir de ce monde dans l'autre. Théétète, 176b, qui marque à jamais le néoplatonisme, notamment plotinien. On pourrait dire que tout Plotin est un commentaire de ça. Il faut fuir là-bas. Et ne pas rester ici. Bon. Le monachisme veut retrouver là-bas, ne pas uniquement s'enliser, en tout cas dans l'ici, etc. Si on parle de façon, si vous voulez, rapide. Donc, moi, je suis fascinée par ce rapport. C'est même le sens de mon travail depuis un moment. Je suis tellement fascinée que parfois, je ne vois pas les différences réelles qui peuvent exister entre hellénisme, par exemple, et christianisme.
Vous voyez. Et ce sera pareil dans la...
Je vais faire bondir vos auditeurs.
Oui. Non, pas du tout.
Non.
Vous savez, ils sont très ouverts, nos auditeurs.
Non, non.
Ils s'intéressent à tout. Et quand ils ne sont pas d'accord, ils nous écrivent. Et on a... D'ailleurs, j'en profite, petite parenthèse, je remercie beaucoup tous ceux qui nous écrivent. On reçoit beaucoup de courriels, de gens qui nous font part de leurs accords, de leurs désaccords. Voilà, donc ça fait...
C'est très bien.
Ça fait vivre l'émission en dehors de l'émission.
Oui, oui. Oui, et ça prouve que justement, tout cela fait débat. Et en fait, ce que vous dites est vrai aussi de du destin de Plotin, ou du néoplatonisme plutôt, dans la tradition soufie, enfin de la mystique musulmane en général, qui s'est absolument ressaisie de cette pensée, même si elle ne la connaissait pas directement, mais par des textes qui étaient des adaptations de Plotin. Et en particulier chez un immense philosophe, poète du XIIe siècle, Sohrawardi, auquel Henri Corbin a consacré de nombreux ouvrages. Et je vous avais apporté, je vais en lire juste un extrait, puisque nous arrivons à la fin de cette émission, un texte dans lequel le personnage est parti en quête de la source de l'immortalité, qui est la source de lumière et qui se trouve précisément dans les ténèbres. Et il y a un dialogue entre lui et son maître qui lui indique le chemin à suivre pour arriver à cette source de lumière. Et le cheminement est inspiré directement de ce que Sohrawardi savait de Plotin. Sohrawardi qui a tenté justement une synthèse entre zoroastrisme, ou les religions anciennes de l'Iran, l'hellénisme, néoplatonisme en particulier, et l'islam. Ô sage, cette source de la vie, où est-elle ? Dans les ténèbres. Si tu veux partir à la quête de cette source, chausse les sandales du prophète et progresse sur la route de l'abandon confiant jusqu'à ce que tu arrives à la région des ténèbres. De quel côté que tu ailles, si tu es un vrai pèlerin, tu accompliras le voyage. Qu'est-ce qui signale la région des ténèbres ? L'obscurité dont on prend conscience, car toi-même tu es dans les ténèbres, mais tu n'en as pas conscience. Lorsque celui qui prend ce chemin se voit soi-même comme étant dans les ténèbres, c'est qu'il a compris qu'il était auparavant d'ores et déjà dans la nuit, et que jamais la clarté du jour n'avait encore atteint son regard. Le premier pas des vrais pèlerins, le voilà. C'est à partir de là seulement qu'il devient possible de s'élever. Si donc quelqu'un parvient à cette station, à partir de là, oui, il peut se faire qu'il progresse. Le chercheur de la source de la vie dans les ténèbres passe par toutes sortes de stupeurs et de détresses. Mais s'il est digne de trouver la source, finalement, il contemplera la lumière. Alors il ne faut pas qu'il prenne la fuite devant cette lumière, car la lumière est une splendeur qui, du haut du ciel, descend sur la source de la vie. S'il a accompli le voyage, s'il se baigne dans cette source, il sera désormais invulnérable.
Comme chaque dimanche, nous terminons cette émission des Racines du Ciel avec l'agenda culturel, Lélie.
Oui, je voulais signaler une journée d'études consacrée à Edmond Jabès à l'occasion de son centenaire. C'est une journée d'études qui se tiendra à la Bibliothèque nationale de France. Et pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette journée d'études? C'est parce qu'Edmond Jabès est véritablement un des très grands poètes du XXe siècle. C'est un poète qui est né en Égypte, à Alexandrie, comme Plotin. Et c'est un poète juif qui est un poète de l'exil. Et oui, vous me signalez que Plotin n'était pas né à Alexandrie, mais il était né en Égypte, absolument. Et donc, en tout cas, Jabès était né en Égypte, poète juif qui se sentait en exil. C'est un poète de l'exil, mais aussi de l'hospitalité. Pour moi, c'est un très grand poète de la lumière. C'est aussi pour ça que je signale cet événement. Et véritablement, j'invite nos auditeurs, à l'occasion de ce centenaire, de redécouvrir ou de découvrir cette œuvre magnifique d'Edmond Jabès. Je voulais aussi signaler des classiques sur le néoplatonisme, l'incontournable Pierre Hadot, bien sûr, qui a écrit Plotin ou la simplicité du regard, c'est régulièrement réédité chez Gallimard, mais aussi, moins connu, Jean Pépin, que vous appréciez tout particulièrement, Anne Baudard, auteur de « Idées grecques sur l'homme et sur Dieu » aux éditions des Belles Lettres, et aussi qui a dirigé « La vie de Plotin » par Porphyre Chevrin, qui est un immense ouvrage dans lequel on aborde tous les aspects de cette vie de Plotin et de sa pensée. Et enfin, je voulais signaler qu'en septembre paraîtra chez Vrin un ouvrage écrit par vous-même, Anne Baudard, « Qu'est-ce que la sagesse ?» Ça, c'est une vraie question. Dans cet ouvrage, vous confrontez en fait la pensée de Pierre Hadot à celle de Michel Foucault et leurs approches respectives de la sagesse antique.
Tout un programme. Anne Baudard, merci beaucoup d'être venue aux Racines du Ciel. Au revoir. Je rappelle que vous pouvez télécharger cette émission pendant une semaine, la réécouter également sur notre site internet franceculture.fr. La semaine prochaine, nous rendrons hommage à Arnaud Desjardins que nous avions reçu aux Racines du Ciel et qui est décédé il y a quelques mois, et je recevrai pour cela Gilles Farset. Tout de suite, vous retrouvez le journal de 8h. Excellent dimanche à tous.